Bonjour. Eric fait erreur. Je ne voulais pas du tout parler du sujet qu'il a abordé. Moi, je voulais vous parler de ce qu'on appelle en psychologie de relations toxiques. Qu'est-ce que ce sont que les relations toxiques? Ce sont ces relations qui, petit à petit, vont empiéter sur votre vie, l'envahir, jusqu'à les soumettre à leur bon plaisir. Indirectement, la publicité en fait l'apologie en vous disant que vous allez devenir dingue du chocolat machin, que vous consommerez la crème dessert bidule au-delà du raisonnable. Je trouve ce genre d'argument, oui, me rend perplexe. Je ne vois pas ce qu'il y a de séduisant à vous promettre la dépendance, voire l'addiction. Tout en s'en défendant, d'ailleurs, parce que, mais plus ou moins sous la contrainte des pouvoirs publics, dans l'instant où on vous dit que le deuxième hamburger est gratuit, un panneau défile au bas de l'écran pour vous avertir de ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Qu'est-ce qu'il en est de ces relations envahissantes ou pratiques envahissantes pour le chrétien? Qu'est-ce qui, au fil du temps, est susceptible d'envahir sa vie, d'en prendre la direction? À quoi le chrétien est-il menacé de devenir addict? Et Dieu, bien sûr. Mais bien sûr, qui est susceptible de prendre le contrôle de sa vie? Dieu. Qui est susceptible de réclamer à lui une attention de tous les instants? Dieu. Qui est susceptible de demander une transformation de vie, de la conformer à ses propres règles? Dieu. Incontestablement, Dieu ne réclame pas de petits instants de notre vie. Il demande à ce que chaque instant soit vécu dans sa présence, placé sous son regard. Rien ne lui échappe, comme il nous l'a dit, pas même un seul de nos cheveux, pas même notre sommeil. Dieu n'est pas raisonnable. Dieu n'est pas modéré. Dieu veut tout de nous, toujours et en tout lieu. Et vous savez ce qu'il est conseillé de faire face à une relation toxique? Si la personne ne comprend pas, en lui expliquant gentiment qu'elle empiète de trop sur notre vie, alors il faut prendre nos distances. Seulement, vous pouvez toujours expliquer à Dieu à quel point il est trop envahissant. Il revient toujours. Que ce soit par la beauté d'un coucher de soleil, par l'attention bienveillante d'un de ses disciples, par un verset de la Bible sur le mur de la cuisine chez soi ou d'une amie, même par une pensée intérieure dont on n'arrive pas à se détacher. Quoi encore? La lecture de la Bible, bien sûr. Faire de la Bible son livre de chevet toute une vie durant, ce n'est pas sain. Sain, S-A-I-N. Et je dois ce précieux conseil à mon père, véridique. Mais c'est vrai, quoi. À quoi bon rester à tourner en rond dans ce même livre, à ressasser toujours les mêmes instructions, se laisser enseigner de préceptes d'un autre âge? Comment peut-on espérer que ça va nous armer pour affronter la vie moderne? Ça me fait un peu penser cette réplique pour ceux qui ont vu le film Les Visiteurs à propos de ces gens venus du Moyen-Âge, ils connaissent même pas Michel Drucker. Un petit peu de Bible de temps en temps, ça fait pas de mal, mais à consommer avec modération. Et puis attention, il y a des choses culpabilisantes là-dedans, et on sait bien que la culpabilité, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'épanouissement personnel. Quoi d'autre? La prière, mais oui, la prière, à ça. La prière, ça vous change un homme, mais une femme aussi d'ailleurs. On ne se rend pas bien compte des ravages de la prière quand on en abuse. Une minute, ça va, mais trois, bonjour les dégâts. Elle vous transforme une personne tout à fait sensée en une espèce d'illuminé qui aurait entrebâillé la porte du paradis. C'est d'ailleurs ce qu'ils disent dans leur publicité. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant, on a le visage rayonnant. Ben voyons. Pratiquer à plusieurs, la prière est une véritable arme de destruction massive et personne n'en sort totalement indemne. Il faut prévenir nos sœurs, nos frères et sœurs irréductibles qui se réunissent tous les dimanches matins, tôt, de ne pas plaisanter avec ça. Il y a une vie là-dehors, à l'extérieur, ne passez pas à côté. Je ne vais pas laisser Eric plus longtemps dans l'expectative de ce qui suit et sous cette entrée en matière un peu provocatrice. Je vous demande de m'excuser. Dit comme ça, c'est inadmissible, évidemment, je vous l'accorde. Aucun de nous n'oserait parler en ces termes de notre relation à Dieu, dans sa parole et dans la prière. Et pourtant, si on examine avec lucidité, si on s'examine individuellement avec lucidité, est-ce que nous n'avons pas là un portrait à peine exagéré de ce que peuvent devenir nos vies spirituelles, parfois temporairement, parfois durablement? Est-ce un mal de notre siècle, ou l'humanité le porte-t-elle en elle depuis longtemps, de longue date? Les deux, mon capitaine. Quand Adam et Ève succombent à la tentation de manger le fruit, ils ont déjà cédé à la pensée que Dieu leur raconte des bobards et qu'il faut prendre un peu de distance pour relativiser ce qu'il a dit. Et comme on va le voir, donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la Genèse au chapitre 3 et le verset 1. Genèse 3, 1. L'approche du tentateur est très subtil, mais évidemment, on ne peut pas s'attendre à autre chose de sa part. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Dieu a-t-il réellement dit ? Vous voyez la subtilité ? Tu es sûr que Dieu a bien dit ça ? Et c'est vrai qu'à ce stade, il serait dangereux, il ne serait pas très habile de s'opposer à Dieu directement. Mais un petit doute instillé sur le sens de la parole de Dieu. Es-tu sûr d'avoir bien compris ? Était-ce en ces termes ? Est-ce que c'est cela que ça signifiait exactement ? N'est-ce pas ton interprétation ? Et la réponse d'Ève qui fait suite, Ève répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Nous mangeons ceci, cela, mais concernant tel arbre, ceci, cela. Ève semble opposer une certaine résistance à l'argument, mais comment ne pas la sentir déjà ébranlée ? Évidemment, je n'étais pas présent pour juger de son attitude, de son regard, de la situation générale. Mais elle semble finalement entrer assez facilement dans le jeu de l'adversaire. Et elle se lance dans une explication un peu alambiquée sur ce qu'il mange habituellement, etc. Mais que concernant cet arbre, alors Dieu a dit, voilà. Bon. Elle aurait pu se contenter largement de dire, oui, il l'a réellement dit. Oui, Dieu a réellement dit. Un simple oui, ferme et définitif, aurait même suffi. Pour plus d'explications, et quitte à être un peu plus loquace, une parole du genre « laisse-moi tranquille » ou « passe ton chemin, s'il te plaît » aurait fait essuyer à ce personnage un revers propre, à lui compliquer la tâche considérablement. Mais Ève est une femme bien trop polie. J'ose pas dire trop bien éduquée, puisqu'elle a eu personne pour l'éduquer. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement sociable et elle ne peut pas rabrouer aussi vertement son interlocuteur. Donc nous mangeons, nous, habituellement, de tous les fruits du jardin et concernant le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit de ne pas y toucher, de peur d'en mourir. Petite parenthèse entre nous, si vous relisez le verset 1, jamais le serpent ne parle de l'arbre qui est au milieu du jardin, ni jamais il ne cite l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est Ève qui le fait. Et s'il l'avait évoqué, d'ailleurs, je crois qu'elle l'aurait vu venir avec ses gros sabots. Alors, ayant établi un contact et ne s'étant pas fait rabrouer, le serpent pousse son pion un peu plus loin. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Vous vous souvenez sans doute, pour la plupart d'entre vous, de l'affaire Festina, qui avait défrayé la chronique, je crois que c'était pour le Tour de France 98. Et un coureur pris au milieu de la tourmente, un coureur français pris au milieu de la tourmente, avait eu cette réplique qui avait fait les choux gras des guignols de l'info à l'époque. On m'aurait menti. On m'aurait menti. Alors qu'il était bien sûr totalement au courant. La femme est un peu dans cette situation. Dieu m'aurait menti. Elle réagit un peu de cette manière-là. La femme vit que l'arbre était bon et à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. C'est un petit peu ce que fait notre serpent, là, quand il dit « Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. » Et elle commence à instiller dans l'esprit d'Ève, il commence à instiller dans l'esprit d'Ève que Dieu n'a pas tout dit. Dieu m'aurait menti. C'est pas moins que cela. Et à partir de ce moment-là, il ne reste plus qu'à traduire en acte le doute qui a envahi sa pensée. Et c'est de là que part le geste de la consommation du fruit. Ce geste ne fait que sceller une chute déjà amorcée en esprit, dans l'esprit d'Adam et d'Ève, par la mise en cause de la bienveillance de Dieu à leur égard. Et cette mise en cause est née elle-même d'une distance prise à l'égard de ce que Dieu a dit, à l'égard de la parole de Dieu. Là est donc notre patrimoine génétique. Nous portons cela en nous-mêmes. Pourquoi le nier ? Mais notre siècle nous y pousse-t-il plus que jamais ? Incontestablement, oui. Le serpent est-il plus rusé ? Peut-être pas, mais il s'est construit un royaume et un savoir-faire affûté par des siècles d'expérience. Et puis, ça a été évoqué dans les études sur l'Apocalypse, son influence se généralise au niveau mondial, et cette influence est soutenue par le développement de la puissance de l'État, qui, sous couvert de valeurs humanistes, pousse dans ses derniers retranchements nos valeurs spirituelles fondamentales. Ouvrons la Bible en 2 Timothée au chapitre 3. Versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Relation toxique. Tout ça, dans les derniers jours. Et nous ne savons pas à quel stade nous en sommes de ces derniers jours, mais selon ces propos de Paul, la pression mise sur les croyants ne fera que s'accroître. Il n'est pas parlé de persécution, enfin pas dans le sens où on l'entend habituellement, mais plutôt d'une pression de l'intérieur sur les individus les familles, les valeurs personnelles, les comportements individuels. Et à l'image de ce que sera devenu le monde, les croyants qui n'y prendront pas garde s'exposeront à se laisser influencer par le discours enjôleur de l'adversaire. Dieu a-t-il réellement dit ? Pas très réjouissant tout ça. Comment lutter ? Comment lutter ? Faire entendre nos voix ? Certainement. Nous l'avons fait lorsque la question du mariage pour tous s'est présentée devant nous il y a quelques mois. Il fallait le faire. Nous l'avons vécu comme un combat entre le bien et le mal, et ça l'était assurément. Le fait que ça n'a pas suffi pour sauvegarder cette valeur fondamentale du mariage, qui est du mariage entre un homme et une femme, n'en fait pas un échec au sens spirituel. Ça aurait été un échec si ça n'avait ému aucun croyant. Dans le cas présent, il s'agit d'une régression pour notre pays, et je crois que les croyants ont bien rempli leur rôle, à mon avis, de prévention. Mais la vie chrétienne ne peut pas se résumer à l'expression de protestation lorsque nos valeurs sont menacées, ni s'en contenter. Il se pourrait même qu'elle y trouve un terrain qui exacerbe les passions religieuses, communautaires, identitaires, plus que ne le ferait et l'autoriserait l'expression d'une foi authentiquement spirituelle. Alors, réfléchissons à une chose. Où en suis-je, moi, dans tout ça ? Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas d'inciter ceux qui ne croient pas à être plus droits, mais c'est à être droit moi-même. J'ai déjà beaucoup à faire avec ça. Et s'il y a un avertissement solennel qui est donné dans la Bible, c'est bien celui de la fausseté personnelle qui commence par l'inconséquence irréfléchie et qui culmine avec l'hypocrisie consciente. Comment est-ce que j'alimente ma foi à moi ? De quoi est-ce que je la nourris chaque jour ? Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Et vous noterez combien ce discours tranche par son aspect direct et franc de celui enjôleur du serpent. Éric l'a dit, vous le savez, notre mot d'ordre pour cette année, c'est consacrer à Dieu. Pourquoi avons-nous besoin d'être consacrés à Dieu ? Parce que l'Église est impuissante, en particulier dans ce monde qui s'éloigne de lui petit à petit, si elle ne trouve pas en lui la source de son action, de sa mission, et déjà pour commencer, de sa propre subsistance. Ouvrons nos Bibles dans l'Évangile de Matthieu, un court verset. Chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le sel. Le sel a un goût caractéristique reconnu de tous les hommes. Personne absorbant du sel ne dit « Tiens, c'est un goût que je ne connaissais pas ». Je ne sais pas si le sel peut perdre sa saveur, chimiquement parlant, mais il peut se diluer. Très peu suffit, mais il en faut quand même un minimum. Dispersé en trop petite quantité dans un plat trop volumineux, on ne se rend plus compte de sa présence, il ne sert plus à rien. Il faut une certaine quantité de sel pour un volume donné. Nous, qui sommes le sel de la terre, nous qui sommes par notre présence, notre vie, notre témoignage, même peu nombreux, appelés à relever le goût de notre monde, où puiserons-nous les ressources pour le faire ? Il faut une certaine quantité de relation avec Dieu dans une vie chrétienne. Il faut une certaine quantité de parole de Dieu pour affronter chaque journée, et en particulier quand le serpent s'en mêle. Il faut une certaine quantité avec Dieu dans la prière pour sonder sa volonté. Je ne désespère pas de voir les membres de notre Église affluer en plus grand nombre que d'habitude le dimanche matin vers 9h20 à la réunion de prière et se découvrir une âme de reconstruction massive de l'identité spirituelle du corps de Christ. La prière communautaire est une dimension partout présente dans le Nouveau Testament, fortement encouragée à côté de la prière personnelle qu'elle ne remplace pas. Je ne désespère pas de voir notre étude biblique du mardi soir revenir au niveau de fréquentation qu'elle avait d'une quinzaine de personnes il y a quelques mois encore, plutôt que de laisser se transformer notre frère Fabrice en une sorte de voix qui crie dans le désert, un Jean-Baptiste des temps modernes, n'est-ce pas ? Je relativise, nous avons un groupe de l'émergence de nouveaux groupes au sud qui est un signe encourageant, mais cette désaffection du groupe Église du mardi interpelle, d'autant qu'il y est dispensé un enseignement solide de la vie même de nos meilleurs docteurs. Alors vous me direz, est-ce plus spirituel de prier en Église que dans le secret de sa chambre ? Est-ce plus spirituel d'étudier la Bible à plusieurs que seul ? Est-ce que franchir le portail de l'Église donne à l'une et à l'autre, l'étude de la parole et la prière, une dimension supérieure ? Est-ce qu'il n'y a pas là, finalement, le risque que j'évoquais tout à l'heure d'une culture de la forme extérieure, d'une piété tout en apparence et en obligation, mais qui renie, en fait, la force de la piété intérieure ? Prenons les choses dans l'ordre. Et j'en reviens à cette question fondamentale pour nous ce matin. Comment est-ce que j'alimente ma foi ? De quoi est-ce que je la nourris ? Et de cela, la Bible est claire. Je la nourris de l'étude de la parole de Dieu et d'une relation intime avec lui dans la prière. Elle est tout aussi claire sur le fait qu'une foi personnelle, même intense, qui reste isolée, ne survit pas durablement. L'empressement du berger dont Jésus parle pour retrouver la brebis égarée montre qu'il ne fait pas bon vivre éloigné du troupeau. On rencontre ça et là des chrétiens déçus par les églises et il est évident que les églises sont imparfaites et ont de quoi décevoir. Blessés, ils ont pensé vivre leur foi seuls et y ont parfois mis une certaine ardeur, mais ça ne dure qu'un temps. Si je reste attaché à Dieu, à sa parole, si je reste en communion avec lui dans la prière, il ne se passera pas beaucoup de temps qu'il ne me convainque de ne pas rester plus longtemps à me priver de la présence et des bienfaits de mes frères, de ne pas rester plus longtemps à les priver de ma présence et du bien que je peux leur faire. Tournons les pages pour en arriver à l'Épître aux Hébreux. Chapitre 10, versets 19 à 25. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il y a dans ce passage la plupart des choses que nous venons d'évoquer. Approchons-nous. Soyons et demeurons proches. Ce matin, ça a été évoqué, nous l'avons chanté, ça a été redit. Il s'agit de s'approcher, peut-être pour la première fois, il s'agit de se réapprocher, de se rapprocher, de revenir dans la présence de Dieu. Mais voilà, c'est écrit noir sur blanc, approchons-nous, approchons-nous. Le cœur sincère, purifié d'une mauvaise conscience, qui évoque que notre relation avec Dieu n'est pas une partie de cache-cache, mais consiste au contraire à tenir nos cœurs ouverts devant lui, à nous laisser sonder par lui. La plénitude de la foi me rappelle le sel qui diffuse sa saveur dans tout le plat dès lors qu'il est en quantité suffisante. La fermeté et la persévérance dans notre profession de foi basée sur la parole de Dieu. Oui, Dieu a réellement dit. La dimension fraternelle, avec cette expression d'excitation à l'amour qui est traduite comme ça dans ma traduction, pourrait faire penser à d'autres choses, mais ce petit côté affriolant est assez parlant en termes d'image. Et enfin, la dimension communautaire, dont nous sommes prévenus du danger de la négliger, et que ce sera encore plus important à l'approche du retour de Jésus, dont nous savons que l'approche de ce jour sera difficile. C'est-à-dire que nous en aurons encore plus besoin que n'en avaient besoin les premiers chrétiens qui déjà la pratiquaient beaucoup. Et tout au début du passage, le rappel que c'est par Jésus, notre souverain sacrificateur, et par son sang, que nous avons un libre accès au sanctuaire, c'est-à-dire d'entrer et vivre chaque instant dans la présence de Dieu lui-même. Voulons-nous devenir addicts de Dieu et de sa parole? Voulons-nous entrer en dépendance de lui dans la prière? Dans ce cas, shootons-nous à la Bible? Enivrons-nous de psaumes? Défonçons-nous dans la prière? Planons dans la louange? Camons-nous de cantiques? Chiquons des intercessions? Sniffons-nous les uns les autres? Dieu est à fréquenter sans modération.